à vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Numéro spécial, à quoi ça sert l'Union européenne? Une question d'actualité. Ce dimanche, le 26 mai, les citoyens européens sont appelés à élire leurs députés. Avec moi en studio, plusieurs invités, des jeunes du centre socioculturel de la Grande Ressouze, le secrétaire général de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain, un Burgien parti en Suède et par téléphone, une Roumaine venue en France. Claude Marquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. En quelques mots, cette association a été créée fin 2016 à Bourg-en-Bresse par un groupe de volontaires. Votre objectif, mieux faire connaître l'Union européenne et ses institutions.
Tout à fait. Vous venez de résumer l'objectif de notre association en peu de mots, mais qui veulent vraiment dire ce que l'on souhaite faire au quotidien.
Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Environ 40%. C'est en moyenne le nombre de Français qui ont voté aux dernières élections européennes. Plusieurs sondages d'opinion annoncent la même participation pour le scrutin de dimanche. Claude Marquis, quel est votre regard sur ces chiffres?
Malheureusement, ça reflète le désintérêt profond des citoyens français pour l'Union européenne. Il y a sans doute plusieurs explications à ça. Je ne suis ni politologue ni sociologue. Moi, ma réaction et mon appréciation de la situation, c'est l'Europe ne sait pas se vendre. On ne parle de l'Europe que lorsque ça va mal, quand c'est la faute de l'Europe. Mais on aborde très très rarement les valeurs. On y revient très peu. On parle très peu de la culture qui lie tous les peuples européens ensemble. On parle très peu des valeurs des années 50, la paix, la démocratie, celles qui sont venues après, la libre circulation, la monnaie unique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos citoyens, ils s'en moquent un peu parce qu'ils n'en voient pas la portée exacte.
Donc vous êtes bénévole à la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. L'association se déplace dans les collèges, les lycées ou encore au centre pénitentiaire de Bourg. Que vous disent ces personnes, ces jeunes que vous rencontrez ?
Alors, aussi surprenant que ça peut être, lorsqu'on échange sur ce sujet, sur l'Union européenne, le retour n'est pas négatif. On l'a encore jugé ce week-end dans la galerie marchande du centre Leclerc, où les gens qu'on a pu aborder, à qui on a pu remettre un flyer sur les élections, sont à l'écoute, comprennent si on leur explique. Mais encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si on n'explique pas, on ne peut pas connaître.
Donc vous vous dites, nous, la Maison de l'Europe et des Européens, on explique, mais ça veut dire qu'ailleurs, il manque des explications.
Oui, tout à fait. Vous savez sûrement que la couverture des médias françaises à Bruxelles ou à Strasbourg est pratiquement inexistante. Hein, je crois qu'il reste un correspondant pour Antenne 2, mais qui n'est pas en permanent. Libération à un correspondant aussi. Sorti de là, on ne parle de l'Europe dans les médias que lorsque deux députés extrémistes se prennent la tête, mais rarement sur des choses positives.
Vous parlez des médias, mais est-ce que cette information qu'on recherche sur l'Europe, est-ce qu'il faut l'attendre que de la part des médias, Claude Marquis?
Non, mais il faut que chacun soit curieux. Et c'est ce qu'on répète à nos jeunes lycéens ou à nos jeunes étudiants lorsqu'on les rencontre. Soyez curieux, informez-vous, allez chercher ce à quoi vous avez droit. Erasmus, service volontaire européen, tout ce que peut vous apporter l'Union européenne aujourd'hui. Évidemment que les médias, surtout dans la façon dont l'information est traitée malheureusement trop souvent, c'est pas la panacée, j'en conviens.
Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites sur l'Union européenne, mais c'est vrai qu'après, il faut aller chercher peut-être dans d'autres médias qui traitent justement de ces sujets, ce qu'on est en train de faire justement sur Radio B. Concernant l'Union européenne, quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on vous pose à son sujet?
À quoi ça sert? Et la question qui vient souvent après, ça coûte cher, si on gardait l'argent chez nous, on pourrait faire autre chose avec, etc. etc. Les questions qui sont relayées, les questions qui aujourd'hui sont relayées par la presse souvent et par les chaînes d'infos continues, c'est-à-dire qu'on veut justifier l'Europe par ses mauvais côtés.
Et qu'est-ce que vous leur dites, alors, quand on vous dit à quoi ça sert l'Europe, par exemple ?
Eh bien déjà, la première chose, c'est qu'on essaye de leur rappeler les valeurs de l'Europe. Ce que j'ai dit encore une fois tout à l'heure, la paix, la libre circulation, la démocratie, la culture européenne. Et je crois qu'on n'insiste pas assez sur cette notion de culture commune entre les peuples européens. Marguerite d'Autriche, c'est la première européenne de Bourque.
Mais comment on peut expliquer qu'il y a autant de défiance vis-à-vis de l'Union européenne, Claude Marquis ? Même si on peut avoir conscience quand même que ça permet de garantir la paix et qu'il y a aussi une culture européenne.
Bien sûr. La défiance, on n'est pas non plus des béni-oui à la Maison de l'Europe. On est des gens qui sont conscients que l'Europe, l'Union européenne, et les institutions surtout, c'est pas l'Union européenne, c'est les institutions de l'Union européenne ont énormément de choses à améliorer. Parce qu'on a l'impression que ça va jamais assez vite. Mais mettre d'accord 751 députés, c'est quand même une gageure, même s'ils sont répartis en plusieurs groupes, en 8 groupes. Donc voilà, et très souvent les gens confondent aussi directives et règlements. Donc ça paraît un peu théorique tout ça. Une directive, c'est quelque chose qui est voté par le Parlement européen, mais laissé à l'initiative de chaque État, de chaque nation. Le règlement, c'est quelque chose qui s'applique, qui doit s'appliquer dans le temps, plus ou moins long, en fonction de l'importance du règlement. Je vais vous faire sourire. Mais la nation qui a appliqué le mieux les règlements depuis ce dernier mandat, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ceux qui veulent s'en aller, ce sont eux qui respectent le mieux la mise en place des lois qui sont votées au Parlement européen. Donc la France, combien de fois, vous avez déjà entendu ça, combien de fois la France s'est fait sanctionner et doit payer des amendes parce qu'elle ne met pas en place assez vite les directives ou les règlements.
La construction de l'Union européenne se ralentit, vacille, la citoyenneté européenne peine à se construire, les institutions européennes sont toujours aussi éloignées. Concrètement, les échanges de jeunes, les jumelages n'ont pas progressé autant que l'Union européenne. Les jeunes générations sont nées avec la paix et ignorent la guerre qu'ils disent parfois proche. Claude Marquis, ce sont quelques phrases tirées du site internet de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain pour expliquer pourquoi cette dernière a été créée. Alors le constat, il est plutôt pessimiste.
Tout à fait, mais c'est sûrement aussi de notre faute. Moi, je reconnais que avant d'intégrer l'association, avant de rejoindre mes amis de l'association, j'étais effectivement europhile, mais pas complètement impliqué sur la défense de l'Union européenne. Et je crois que c'est une des raisons aussi. C'est comme quand on fait de la politique, on ne peut pas faire les choses à moitié, où on s'implique et on convainc. Ou alors, effectivement, on subit et on regarde le train passer. Les comités de jumelage, aujourd'hui, ont perdu complètement la notion de base, c'est-à-dire l'amitié franco-allemande et surtout les échanges. Malheureusement, les comités de jumelage vieillissent, les bénévoles qui y travaillent vieillissent et le renouvellement ne se fait pas. Et donc, ce qui était au départ l'idée du comité de jumelage, la réconciliation franco-allemande, après c'était avec la Roumanie, après l'Italie, après la Belgique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner.
Dans ce texte, vous parlez des échanges de jeunes. Deux sont avec nous. Loïc Ripert, bonjour.
Bonjour.
Tu es bénévole au Centre socioculturel de la Grande Ressource. Tu as été chroniqueur à Radio B. Dans un Burgien au pays des Vikings, les auditeurs ont suivi tes aventures suédoises. Pendant un an, tu as été volontaire européen dans un centre social de la ville de Borås. Et avec nous par téléphone, Alina Doria Gouraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 29 ans, vous êtes née à Bucarest, la capitale de la Roumanie. En 2014, vous avez fait un stage de 6 mois à Paris grâce au dispositif Eurodyssée. Des jeunes demandeurs d'emploi de 18 à 30 ans peuvent faire un stage à l'étranger de 3 à 7 mois. En 2016, vous avez fait un service volontaire européen d'un an, toujours en France, cette fois-ci à Pau. Vous avez aussi fait le projet Erasmus pour les entrepreneurs. Et maintenant, vous travaillez en France. Depuis le début de l'année, vous êtes assistante de production de la Belle Zanka, compagnie de théâtre de la Loire. Alina Doria Gouraud, avant vos expériences en France, c'était quoi pour vous l'Union européenne ?
C'est vrai que j'avais pas une information, en fait une vision très claire par rapport à l'Union européenne, et en étant jeune, c'est vrai que tout de suite, pour moi, l'Union européenne, c'était la possibilité d'intégrer des programmes de mobilité. Plutôt ça, en fait, et de voir comment ça se passe ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on a une impression que chez nous, c'est comme chez les autres, en fait. Et puis, on se rend compte très vite que c'est pas du tout pareil. Donc oui, l'Union européenne, pour moi, c'était vraiment la notion de voyager, en fait, de mobilité.
Et pour les Roumains en général, alors je vous le rappelle, la Roumanie est membre de l'Union européenne depuis 2007. Comment les Roumains voient l'Union européenne ?
Pour nous, je parle en tant que jeune, en fait, parce que c'est vrai que mon entourage, il est constitué plutôt par des jeunes. Pour nous, c'est vraiment le plus important, c'est l'idée de voyager, en fait, et de faire des expériences, à l'étranger. Donc, depuis 2017, on a cette opportunité magnifique.
Depuis 2007, oui.
2007, oui.
Et pour les Roumains qui sont plus âgés, est-ce qu'ils voient une opportunité d'être dans l'Union européenne ?
Oui, après, il y a l'opportunité grâce aux projets qui sont venus, une fois avec l'Union européenne, et puis tout ce qui nous apporte par rapport à la vie culturelle et surtout au niveau économique. Le développement qui a été fait en Roumanie grâce à l'Union européenne.
Et pour toi, Loïc, c'était quoi l'Union européenne ?
Avant de partir, c'était une notion qui était un peu floue pour moi. Ça se résumait un peu au cours qu'on avait eu au lycée sur l'Europe, sur son histoire. Et puis par rapport au développement et aux guerres qui ont sévi en Europe. Pour être franc, avant de partir en Suède, être européen, c'était une notion que je n'avais pas. Hein. C'est suite à mon expérience en Suède où j'ai pu découvrir la vie dans un autre pays et rencontrer des personnes qui venaient de partout en Europe où j'ai vraiment senti que j'étais devenu européen à la suite de cette expérience.
Mais avant de vivre cette expérience, Loïc, tu ne te sentais pas européen ?
C'était comme je l'ai dit, c'était une notion très floue. Je ne savais pas ce que ça voulait dire être européen. Je savais que les pays qui m'entouraient, je me sentais plus français qu'européen avant mon expérience.
Et Alina Doria Gouraud, alors européenne à partir de 2007 ou à partir des expériences ?
À partir de l'expérience. C'est là, je crois, quand tu vis une expérience à l'étranger, que tu te sens vraiment européenne. Avant, comme Loïc a dit aussi, c'était vraiment une notion floue et je connaissais pas forcément mes droits, à part cette idée de voyager. Et puis c'était un peu tout, malheureusement.
Et c'est donc en découvrant les dispositifs de l'Union européenne que ça vous a donné envie de partir dans un pays de l'Union européenne, ou vous aviez envie de partir à l'étranger, quoi qu'il arrive ?
J'étais plutôt menée par la curiosité, c'est vrai, que en fait, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel à Bucarest, et je me suis posé cette question, comment ça se passe ailleurs, en fait, dans ce domaine. Par rapport au domaine artistique, j'étais vraiment très très curieuse. Donc je me suis vite renseignée par rapport aux possibilités, parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'informations, et c'est pas facile à trouver les bonnes informations non plus.
Donc les informations sur les dispositifs qui sont
Exactement.
Possibles pour partir dans l'Union européenne.
Exactement. Donc c'était plutôt de bouche à oreille un peu que j'ai appris qu'il y avait ce dispositif dont vous avez parlé aussi, Eurodyssée. Et puis SVE, pareil, c'était très difficile quand même d'avoir les informations, les conditions pour candidater. Donc c'était vraiment un peu de travail pour avoir ces infos.
Et pour toi, Loïc, la même chose ?
J'ai découvert le service volontaire européen par hasard, car je voulais absolument partir à l'étranger et j'ai, après des recherches sur les différents dispositifs, j'ai trouvé le service volontaire européen. Je me suis orienté cela pour une chose, hein, partir à l'étranger pour une longue durée sans forcément débourser beaucoup. C'est aussi un argument qui m'a donné envie de partir et pour une longue durée et aussi de travailler, non pour faire des études.
Et donc là, quand on part comme ça en service volontaire européen, qu'est-ce qui est pris en charge ?
Ce qui est pris en charge, c'est l'hébergement, car l'organisme qui nous reçoit doit fournir un hébergement, l'avion, les cours de langue du pays dans lequel on arrive, et aussi la structure sur place doit nous trouver un tuteur qui va nous aider au sein de la structure dans laquelle on est, et aussi nous faire découvrir le pays et la ville dans laquelle on habite. Et dans le cadre de l'expérience, il y a deux séminaires avec les autres volontaires qui sont arrivés en même temps que nous. Et ça nous permet de faire des rencontres et d'échanger un peu sur notre expérience dans lequel on vit plus ou moins longtemps.
Claude Marquis, ça vous surprend que ces deux jeunes disent qu'ils ont dû trouver, vraiment chercher pour trouver ces dispositifs, ou que c'est par le bouche à oreille, par hasard ?
Ben surpris, non, enfin surpris, malheureux pris, oui. Dans le cursus universitaire, Erasmus est très très bien implanté. Les étudiants ont largement les informations.
Donc Erasmus, c'est quand on peut partir en échange pendant quelques mois, un an dans un pays européen, dans le cadre de ses études.
Alors justement, Erasmus aujourd'hui n'est plus réservé aux étudiants. Erasmus Plus couvre les collégiens, les lycéens, les étudiants, les apprentis, les demandeurs d'emploi et les salariés. C'est-à-dire que la palette des offres Erasmus Plus est très très large. Il y a les projets individuels, comme celui de Loïc, même si ce n'était pas Erasmus, mais il y a aussi les projets collectifs portés par les établissements scolaires. Il faut savoir que le budget pour la prochaine mandature Erasmus a été multiplié par deux. Donc le Parlement européen et l'Union européenne a vraiment une volonté de développer la mobilité des jeunes. Et lorsqu'on entend le témoignage de Loïc et de la jeune roumaine, on comprend parfaitement que c'est un moyen exceptionnel pour que les jeunes, l'avenir de l'Union européenne, passe à travers ces expériences. Nous, s'il y a 40 ans, à leur âge, on nous avait proposé ce genre de choses, je pense qu'on aurait été, enfin moi le premier, je serais parti. Malheureusement, à l'époque, c'était réservé, comme disait mon père, c'est réservé aux fils d'avocats, aux fils de docteurs, tu ne veux pas partir avec Erasmus.
Alina, Doria, Gouraud, Loïc, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ?
Juste magique, en un mot, de l'échange. J'ai quand même rencontré des personnes qui venaient de Grèce, de Lituanie, Espagne, Allemagne, Autriche, des Suédois bien évidemment, et j'ai pu découvrir leur vision de l'Europe, leur vision de leur propre pays et leur vision qu'ils ont de la France. Ça m'a ouvert les yeux aussi sur ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas dans mon pays. Et depuis que je suis revenu en France, c'est le même cas pour la Suède. Je sais pourquoi j'ai aimé tant ce pays, je sais pourquoi je l'aime moins.
Alina, Doria Gouraud, même question, en quelques mots.
Pour moi, c'était très, très enrichissant, en fait, grâce aux rencontres que j'ai faites. Et j'ai une petite précision aussi, parce que moi, j'ai rencontré, comme Loïc, des gens de partout dans l'Europe, mais aussi, moi, je dirais, dans le monde entier, en fait, parce que à Pau, pendant mon élève, j'ai habité aussi avec des gens qui venaient du Népal ou Vietnam, parce que Erasmus, en fait, c'est plus que l'Europe en ce moment. Donc, il y a d'autres pays qui ne font pas partie de l'Europe qui peuvent intégrer ce type de programme. Donc, c'était très, très enrichissant parce que j'ai découvert plein de cultures différentes. Et aussi, ça m'a beaucoup apporté au niveau professionnel aussi, parce que j'ai intégré une structure où j'ai appris vraiment plein de choses.
Alina, Doria, Gouraud, merci. Vous êtes né en Roumanie, vous avez fait un stage à un service volontaire européen à Paris et à Pau. Aujourd'hui, vous êtes toujours en France. Depuis le début de l'année, vous êtes assistante de production de la Belle Zanka, compagnie de théâtre de la Loire. Claude Marquis et Loïc Ripper, je vous dis aussi merci et à tout de suite. Vous serez encore avec nous pour la deuxième partie de cette émission.
Radio B.
Ce samedi, c'était la 64e édition de l'Eurovision, un concours remporté par les Pays-Bas. La France termine à la 14e place. Loïc, donc l'Eurovision, c'était l'une des thématiques de ta chronique « Un burgien au pays des Vikings ». On écoute un extrait, il sera suivi d'un titre de l'artiste belge Arnaud. À vous les burgiens, reviens dans quelques minutes, à tout de suite.
Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de l'Eurovision, de ce mythique concours musical européen. Dans un premier temps, nous allons évoquer l'importance de ce concours et du Melodifestivalen, qui est la qualification pour l'Eurovision suédoise, dans la société et dans la vie de tous les jours en Suède. En France, on ne porte que très peu d'intérêt à cet événement. On le trouve souvent kitsch, ringard, dépassé. On se manque souvent des costumes, des chanteurs, voire de certaines chansons. On envoie des artistes pour participer, pas forcément pour gagner le concours. Car ça coûte trop cher de l'organiser. On se souvient de Twin Twin avec la chanson Moustache, la seule fois la France a fini dernière de ce concours. Il y a aussi Amandine Bourgeois, Sébastien Tellier qui ont fini au-delà de la 15e place. On cherche désespérément à remplacer Marie Myriam qui a gagné en 1977, il y a plus de 40 ans. Pour moi, l'Eurovision, c'est mythique, surtout depuis que je suis en Suède. C'est quand même le seul show. On ne peut trouver un groupe de métal finlandais qui arrive à gagner le concours. Un duo mélangeant rap et yodel roumain, mais aussi des chansons traditionnelles russes, chantées par des mamies russes, mais aussi qui chantent sur de la dance.
Mais que représente l'Eurovision pour les Suédois ?
En Suède, c'est tout le contraire de la France. Entre février et mai, ils vivent Eurovision, respirent Eurovision, dorment Eurovision, parlent Eurovision et pensent Eurovision. Ou plutôt Melodifestivalen. J'en étais scotché bouche bée. Chaque samedi soir, pendant 8 semaines, le pays s'arrête totalement à 8 heures. Ils regardent la télévision et votent pour leur artiste préféré. Et ceci depuis 1959. C'est une véritable institution historique dans le pays. Elle fait partie intégrante de la société suédoise. Si vous travaillez en Suède, vous devez être incollable sur Melodifestivalen, car la machine à café, vous devrez connaître ce sujet. Ils y vont pour gagner 6 victoires jusqu'à présent. Ils sont juste derrière l'Irlande. Ils ont gagné en 1974, en 1984, 1991, 1999, 2012 et 2015. En quelques chiffres, Melodifestivalen, c'est 28 artistes, plus de 7000 chansons qui concourent, 4 demi-finales, une deuxième chance et une finale. Tout ça dans des stades pleins à craquer. Des billets pour les demi-finales qui peuvent aller de 35 à 90 euros et pour la finale, dans le carré VIP, jusqu'à 125 euros. Il est même possible d'assister aux répétitions le jour du concert, mais aussi la veille. Plus de 3 millions de téléspectateurs à chaque fois, 5 millions de votes en moyenne et 13 millions de votes pour la finale l'année dernière. Pour cette même finale, plus d'un tiers du pays était devant son poste de télévision pour regarder Melodifestivalen. C'est un véritable business. C'est une marque à part entière.
Quels artistes participent au Melodifestivalen ?
Sur les 28 artistes présents, chaque année il y a de tout. Des jeunes artistes qui veulent percer et se faire connaître auprès du grand public. Des chanteurs confirmés et des stars de la musique. Il y a aussi des anciens vainqueurs du concours et même des anciens vainqueurs de l'Eurovision. Comme Laurine qui a participé l'année dernière et qui a gagné en 2012. Mons Zemmerlo qui a gagné en 2015. Charlotte Perelli, alias Carla, qui a gagné en 1999. Ou encore Elena Paparizou, suédoise, mais qui avait gagné l'Eurovision avec la Grèce en 2005. Le record de participation est de 9 avec Kiki Danielsson et de 7 pour Jessica Andersson. Tous les styles de musique sont représentés dans ce concours. Il y a du rap, du reggae, de la pop, du rock, de la musique traditionnelle, des ballades, de la dance ou encore de l'électro. aussi bien en anglais qu'en suédois. Participer au Melodi Festivalen, c'est un gage de succès pour un artiste. C'est un tremplin important pour sa carrière. S'il gagne, la chanson passera à la radio dès le lendemain de la diffusion du show et sera populaire en seulement quelques jours. Certains artistes utilisent ce concours pour promouvoir leur nouvelle chanson. Je regrette profondément ce manque d'intérêt et de passion en France, aussi bien de la part du public que pour certains artistes.
Radio B.
Radio B.
Wake up, rise up, don't fall asleep. We're okay with nothing, but better with something. We're the best, better than the rest. We're ready for the show of life. Let the money die, let the money die. We're gonna dream for the things we want. We're gonna fight for the things we need. We're the best, better than the rest. We're ready for the show of life. Let the money die.
Arnaud sur Radio B avec The Show of Life. L'artiste belge participe au festival Luciole in the Sky organisé par la Cava Musique. Il sera sur la scène du festival le samedi 15 juin. Radio B vous fait gagner des places. Soyez à l'écoute du 90 FM. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. Deuxième partie de notre numéro spécial autour d'une question: à quoi ça sert l'Union européenne? Ce dimanche, le 26 mai, les citoyens européens sont appelés à élire leurs députés. Toujours avec nous en studio, Loïc Riper, bénévole au Centre socioculturel de la Grande Ressouze. Tu as été chroniqueur à Radio B pendant un an. Tu as été volontaire européen dans un centre social en Suède. Et Claude Marquis, vous êtes secrétaire général de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. Cette association a été créée fin 2016 à Bourg par un groupe de volontaires. Votre objectif, mieux faire connaître l'Union européenne et ses institutions. Vous visez tout le monde et en particulier les jeunes. Et ça tombe bien, 5 sont avec nous en direct dans notre studio: Soumeya, Ajar, Nora, Bilal et Kautar. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez entre 14 et 15 ans, vous ne voterez pas ce dimanche. Pour glisser un bulletin aux élections européennes, il faudra attendre 5 ans. C'est la durée du mandat d'un député européen. Ce soir, vous avez la parole déjà pour nous dire ce que vous pensez de l'Europe. Partagez avec nous vos questions. Alors, vous n'êtes pas venue seule. Pauline Guillemot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animatrice jeunesse au Centre socioculturel de la Grande Ressouze.
Oui.
Vous accompagnez les jeunes de 12 à 18 ans.
Voilà.
Claude Marquis, il faut aussi le préciser, l'Europe, l'Union européenne, ce n'est pas vraiment la même chose.
Alors, on a effectivement l'Europe continentale, l'Europe géographique. Et c'est vrai qu'il est nécessaire d'en faire le distinguo. Aujourd'hui, il y a 47 nations qui composent l'Europe continentale, hein, lorsqu'on parle de géographie. Et lorsqu'on parle d'Europe politique, d'Union européenne, aujourd'hui, il y a 28 pays. Hein, les premiers pays qui ont participé à la création de cet ensemble politique, c'est bien entendu l'Allemagne, l'Italie, la France et le Benelux. Belgique, Néerlandes, Pays-Bas et Luxembourg. Et juste un petit peu d'histoire pour vous rappeler que c'est quand même assez paradoxal que ces trois pays, l'Allemagne, l'Italie et la France, se sont affrontés pendant des siècles et des siècles, et que finalement, en 1950, ils ont réussi à se mettre autour d'une table en disant « cette fois, ça suffit, on va peut-être faire quelque chose ensemble plutôt que de continuer à se battre ».
Soumeya, Hajar, Nora, Bilel et Kaoutar, est-ce que c'est clair pour vous cette différence entre l'Union européenne ?
Ouais.
Oui.
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 Oui. Oui.
Oui.
Donc on va parler de l'Union européenne. C'est quoi pour vous justement l'Union européenne ?
Bah, c'est plusieurs pays.
Ouais, plusieurs pays. Quelque chose à ajouter ?
Dans le même continent.
Ok. Et est-ce que ça vous intéresse, l'Union européenne ? Est-ce que vous avez déjà écouté, lu, regardé des choses sur l'Union européenne ? Ou c'est qu'à l'école, qu'au collège, que vous en avez entendu parler ? Vraiment, soyez...
Qu'au collège.
Qu'au collège, ouais.
Qu'au collège.
Ouais, au collège.
À la télé aussi.
C'est-à-dire ?
Bah, sur des chaînes.
Ouais.
Oui, il y a BFM TV, il y a TF1. Il y a France 2.
C'est des reportages sur...
Oui,
qu'est-ce
des reportages.
Qu'est-ce que t'as vu ?
Oui.
Ouais.
Et voilà.
Ok. À quoi ça sert, selon vous, l'Union européenne ? Vous, vraiment, ce qui vous vient à l'esprit, à votre avis ?
Bah,
y a un programme pour les étudiants.
Ouais, rapproche-toi du micro, vas-y.
Y a un programme pour les étudiants.
C'est-à-dire ?
Il y a des étudiants qui peuvent aller étudier pendant un an environ dans un autre pays.
Ouais. Voilà. Donc ça permet
nouvelles rencontres, une langue étrangère.
Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour partir justement dans un pays de l'Union européenne ?
Oui.
Oui.
Ouais. Vous avez pensé à un pays en particulier, l'Italie, l'Espagne, la Pologne ?
Moi, ça serait l'Espagne.
Vas-y Nora, rapproche-toi.
L'Espagne.
D'accord. T'aimerais partir où en Espagne ?
Bah, visiter.
Visiter, ouais.
Mais j'ai pas de ville en particulier.
Ok. Alors, Pauline Guillemot, vous avez organisé une activité autour de l'Europe. Pourquoi ce choix ?
Eh ben, c'est Loïc, bénévole à l'accompagnement à la scolarité, qui est venu me voir et qui souhaitait mettre des animations autour du thème de l'Europe, justement pour sensibiliser les jeunes aux élections présidentielles qui approchent.
Aux élections européennes ?
Européennes, pardon. Européennes qui approchent. Et donc, voilà, j'étais pour l'accompagner dans ce projet et animer avec lui les différentes animations qu'on a pu mettre en place pendant les vacances.
Loïc, alors, qu'est-ce que tu as proposé comme animation ?
Le but, c'était de leur faire découvrir l'Europe sous toutes ses formes et d'une manière ludique, si possible. Donc, dans un premier temps, on a voulu mettre en place un atelier pâtisserie autour de l'Europe pour montrer qu'il n'y a pas que le croissant ou le pain au chocolat qui sont populaires et découvrir ce qui se fait ailleurs, car la cuisine, c'est quand même un symbole culturel de nombreux pays. Et dans un second temps, j'ai voulu mettre en place une soirée plus ludique sous forme de jeu, avec la découverte d'un jeu que j'ai découvert en Suède, le Cube, donc un jeu en extérieur, qui ressemble à un mix entre la pétanque et le multi, et aussi, dans un second temps, plus des quiz, qu'ils aient des informations ludiques, comme par exemple que le croissant n'est pas d'origine française, mais autrichienne, ou comme le fait qu'il n'y a pas de moustiques en Islande, et dans un second temps, plus sur le domaine de la musique, avec un blind test pour finir la soirée.
Alors, cette question s'adresse aux cinq jeunes qui sont avec nous en studio. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces activités proposées par Loïc ?
Ça nous apprenait beaucoup de choses.
Ouais, encore ?
Il y a eu des découvertes.
Qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Que les tacos, c'est pas turc.
Alors, c'est quoi les tacos ? Ça vient d'où ? Loïc, peut-être les aider ?
Allemagne.
Non, c'est plus leur faire découvrir que des plats qui sont connus d'un autre pays ont pu voyager par l'intermédiaire des migrants. Comme par exemple que le kebab qui a été... qui est d'origine turque qui a bougé à travers l'Europe, notamment grâce à ses migrants, et qu'il a été maintenant le pays qui en mange le plus. Ce n'est pas la Turquie, c'est l'Allemagne, et la France est bien placée derrière.
Soumeya, Hajar, Nora, Bilel et Kaoutar. Alors, avez-vous des questions à poser à Claude Marquis de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain?
Oui. Pour vous, c'est quoi être européen?
Vaste question. Être européen, c'est d'abord appartenir à sa nation, c'est-à-dire nous sommes des citoyens français. Mais au-delà de notre citoyenneté française, il y a la citoyenneté européenne. Vous connaissez sans doute la devise de l'Union européenne, ou si vous ne la connaissez pas, je vais vous la rappeler. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité », unis IE. C'est-à-dire que l'Union européenne est unie, mais chacune des nations, chacun des peuples conserve sa diversité, ses différences. On a tous des différences culturelles, religieuses, la langue, la façon de travailler, les différents gouvernements. Mais l'Union européenne a fait le pari de se rassembler autour d'un projet. Et le projet, il est commun. Mais on garde chacun ce qu'on est. Donc moi, être européen, c'est partager ce projet. C'est vous accompagner, vous, les plus jeunes, pour développer votre citoyenneté européenne. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup au niveau scolaire. Hein. Je crois qu'on attend la troisième pour commencer à parler de l'Union européenne. Un peu dans des sections un peu plus techniques ou spécialisées. Là, on va parler un peu plus de l'Union européenne. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, l'enseignement ne s'empare pas de ce sujet qui est essentiel pour votre avenir. Moi, à mon âge, l'Europe, je la vis tous les jours. Elle est un peu derrière moi. Pour vous, c'est vraiment votre avenir. Aujourd'hui, si la France n'était pas dans l'Union européenne, on ne représente plus rien. Face à la Chine, face aux États-Unis, face à l'Inde, 70 millions de Français, face à toute la zone pacifique, on n'est plus rien. On n'est plus rien. Alors que l'Union européenne, c'est la troisième unité en population. Plus de 500 millions d'habitants. On est derrière la Chine et l'Inde, bien sûr, mais devant les États-Unis et la Russie. Et ça, on ne le dit pas assez. Notre population est la troisième population mondiale. La première force économique au monde. Le plus grand empire démocratique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. 28 démocraties, même si aujourd'hui il y a quelques pays qui ont un peu dévié de la voie démocratique. Mais n'empêche, c'est le seul endroit dans le monde où c'est organisé comme ça. Donc prenez-en conscience, battez-vous pour que l'Union européenne continue. Hein, et précisez tout à l'heure pour Erasmus, c'est pas réservé aux étudiants, c'est réservé aux demandeurs d'emploi, c'est réservé aux apprentis, c'est réservé aux collégiens, aux lycéens. Hein, Erasmus, c'est un programme gigantesque. Soyez curieux, venez nous voir, et si on peut vous aider, ça sera vraiment avec grand plaisir.
On va passer à une autre question.
Dans notre quotidien, quel est le rôle de l'Union européenne?
Ah, alors là, elle est tous les jours avec vous. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, vous êtes en Italie, vous téléphonez en France, il n'y a plus de surtaxation téléphonique. Vous ne saviez peut-être pas. Hein, depuis juillet 2017, vous téléphonez n'importe où en Europe, c'est le même prix. Dans la vie de tous les jours, vous utilisez sans doute Google comme moteur de recherche. Alors il existe un moteur de recherche français qui a été acheté par l'Europe, qui s'appelle Quant, Q-W-A-N-T. Et l'avantage de ce moteur de recherche, c'est qu'il n'y a pas d'historique. C'est-à-dire que vous ne recevrez pas de cookies, vous ne recevrez pas de publicité. Si vous commandez des bonbons, ben vous ne recevrez pas des milliers de publicités pour les bonbons. Et puis, vous qui êtes au centre social socio-culturel de la Ressouze, il y a un gymnase qui a été rénové pas trop loin de chez vous, vers le stade Louis-Parent. Le gymnase qui a été rénové, l'Union européenne a apporté 30% du coût de la rénovation. Les haies bocagères, par exemple. Il y a des programmes de replantation de haies bocagères dans les zones rurales. On a arraché, il y a 40 années de ça, toutes les haies pour faire de la culture extensive. Aujourd'hui, on revient à des choses plus raisonnées. Et ben, l'Union européenne finance l'achat des haies. Je pourrais vous parler de Galileo. Vous connaissez Galileo, c'est ce qui va remplacer GPS. Airbus, Ariane, la PAC, politique agricole commune.
Ça, c'est les aides pour les agriculteurs.
Voilà, hein, les aides pour les agriculteurs, mais ce n'est pas que les aides pour les agriculteurs. La PAC, il y a le premier pilier où là, l'argent va directement aux agriculteurs, mais il y a aussi le deuxième pilier qui sert à financer des projets pour le développement des zones rurales. Et pas que ça, il y a un projet qui est en train d'être financé, qui est rue Charles Robin. C'est une association qui s'appelle La Retape. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez jeter un coup d'œil, c'est magnifique. Et là, ils ont déposé un projet donc, d'accompagnement de leur développement auprès de l'Union européenne.
On va passer à une autre question.
Quelles actions sont menées pour faire connaître l'Union européenne aux jeunes?
Et ben, c'est ce qu'on fait depuis que notre association existe. Hein. Pour exemple, jeudi, on a organisé 6 conférences au lycée Caria et au lycée Quinet. Et sur la journée, on a rencontré 330 lycéens à qui on a parlé d'Union européenne, d'institutions, d'environnement, d'organisation. Dans les collèges, hein, on a, depuis le début de l'année, mis en place dans chaque collège du département un présentoir, un eurokiosque, où on met à disposition des élèves et des professeurs toute une documentation sur l'Europe. Je ne sais pas à quel collège vous allez.
Revermont.
Est-ce que vous l'avez vu dans le CDI, ce présentoir?
Non.
Non.
Vous n'avez peut-être pas fait attention, parce que normalement, il doit y être.
Bah, moi, j'y vais jamais au CDI.
Ah, ben voilà. C'est dommage, parce que je pense que c'est un endroit qui est très intéressant. Donc, ce présentoir qui a été financé avec le conseil départemental apporte de l'information et de la documentation vers les élèves. On a créé, là, pour cette année, pour le 9 mai, une exposition.
Alors, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe.
Voilà, la journée d'Europe, parce que le 9 mai, c'est le jour où Robert Schuman a prononcé son discours.
Donc, l'un des fondateurs de l'Union européenne.
Voilà, merci Audrey. Et on a donc créé pour ce 9 mai une exposition qui s'appelle Européenne, où on a mis en avant 28 personnalités féminines remarquables, une par pays européen. Donc, on a fait ça sous forme de panneaux. Là, cette semaine, elle est exposée vers le lycée Caria, le long de du grillage du lycée Saint-Pierre. Donc, on a des panneaux, on a 28 femmes, 28 féminines, personnalités féminines, avec un petit texte qui explique ce qu'elles ont fait pour leur pays et pour l'Union européenne. Et pour la France, dites-moi qui c'est qu'on a pu choisir.
Macron.
Une femme.
Une femme.
Le Pen.
Non.
Mais c'est pas des présidents.
Non, mais c'est pas fort. Non, c'est pas que des politiques. Bon, on a choisi Simone Veil. Ah. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Simone
Oui.
Veil?
Et c'est une personne âgée, non?
C'est une personne âgée, oui. Elle est décédée à 90 ans, il y a 2 ans. Simone Veil, c'est une jeune fille qui a été rescapée de la Shoah.
Ah, il y a un livre.
Oui, il y a un livre, il y a des films, il y a plein de choses.
Ah,
tout à fait. Hein, il y a une très belle pièce de théâtre qui s'appelle « Pendant que Simone Veil ». Donc, on a choisi Simone Veil parce que, donc, rescapée de la Shoah, femme politique engagée. Et puis vous, mesdemoiselles et mesdames, vous verrez un peu plus tard ou déjà ce qu'elle a fait pour vous. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen, la seule et unique. Pour l'instant, il y a eu qu'elle qui l'a été. Et ça a été un des moteurs de la réconciliation franco-allemande. Donc, c'est un personnage qui a énormément compté pour la France, pour les lois sur la défense des droits des femmes et sur l'Europe avec la réconciliation franco-allemande. Par exemple, pour la Bulgarie, le consulat de Bulgarie nous a donné Sylvie Vartan. Ça vous dit peut-être que Sylvie Vartan, c'est une chanteuse yéyé, ça vous dit quelque chose?
Non.
Ah, vous irez regarder. Je vous interromps,
Sylvie Marquis.
Est-ce que vous avez des questions encore?
Oui.
Oui. Il y a une dernière question, c'est ça?
Oui.
Alors, Claude Marquis, il faudra répondre très très rapidement parce qu'il faut qu'on rende l'antenne dans 30 secondes. Vas-y.
Qu'est-ce que l'Union européenne fait pour les jeunes?
Alors, Claude Marquis, en quelques secondes.
Bah, j'ai déjà un peu répondu. C'est pour vous, les jeunes, c'est toutes les offres de mobilité. C'est Erasmus, c'est le corps de solidarité européenne, c'est les camps de vacances l'été. Au lieu de partir en camp de vacances sur la Côte d'Azur, eh ben, on peut partir en Pologne ou en Lituanie compter des phoques. par exemple, hein, en camp de vacances. Hein. Donc, soyez curieux. Et venez nous voir. On ne peut que vous aider à monter un projet qui sera, comme l'a dit Loïc, vous fera grandir. J'ai bien aimé un jour Loïc, quand je lui ai demandé ce que ça lui avait apporté, il m'a dit « j'ai grandi ». Et bien, c'est ce que je vous souhaite.
Claude Marquis, merci. Vous êtes secrétaire général de la Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. Loïc Ripert, merci. Tu es bénévole au Centre socioculturel de la Grande Ressouze. Pauline Guimau, merci. Vous êtes animatrice jeunesse au Centre socioculturel de la Grande Ressouze. Merci à Soumeya, Ajar, Nora, Bilel et Kaoutar. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute sur Radio B. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h, et à tout moment sur notre site radio-b.fr.